Mark Twain, Les aventures de Tom Sawyer, chapitre 31. Dans la grotte. Revenons-en au rôle joué dans le pique-nique par Becky et Tom. Une fois dans la grotte, en compagnie de leurs camarades, ils avaient parcouru les galeries obscures, visité les merveilles connues qui portaient des noms ronflants tels que le salon, la cathédrale, le palais d'Aladin, etc. Bientôt commença une partie de cache-cache dans laquelle Tom et Becky firent preuve de leur entrain habituel. Puis, ce jeu finissant par les lasser, ils partirent à l'aventure dans un couloir sinueux, en tenant leurs chandelles au-dessus de leur tête pour pouvoir déchiffrer le fouillis de noms, d'adresses, de dates et de devises tracées à la suie sur le roc. Distraits par leur bavardage, ils se rendirent à peine compte qu'ils atteignaient une partie de la grotte dont les parois ne portaient plus d'inscription. Avec leurs chandelles, ils tracèrent à leur tour leur nom sur une saillie du calcaire et poursuivirent leur chemin. Peu après, ils arrivèrent à un endroit où un petit filet d'eau coulait, goutte à goutte, d'une corniche. L'eau, contenant de la chaux, avait, au cours des âges, transformé la pierre impérissable en une sorte de Niagara en miniature. Tom se glissa derrière le rideau de pierre transparente et l'illumina pour le grand plaisir de Becky. De l'autre côté, Tom découvrit une sorte d'escalier naturel assez escarpé, entre deux parois rapprochées. Il n'en fallait pas plus pour faire renaître en lui la vocation d'explorateur. Becky accepta. Ils tracèrent à la fumée un repère en vue de leur retour et commencèrent leur recherche. Ils allèrent de droite et de gauche, descendant jusque dans les profondeurs secrètes de la grotte. Tracèrent un autre repère et suivirent un embranchement à la recherche de nouveautés qu'ils comptaient révéler au monde extérieur. Ils pénétrèrent dans une vaste salle, du plafond de laquelle pendait une multitude de stalactites brillantes, de la longueur et du diamètre de la jambe d'un homme. Ils parcoururent la salle, admirant, s'émerveillant, et peu après en sortirent par l'une des nombreuses galeries qui aboutissaient à cet endroit. Ce passage les conduisit à une ravissante cascade, dont le bassin était incrusté de fleurs de givre et de cristaux brillants à la lumière. C'était au milieu d'un souterrain dont les murs étaient étayés par un grand nombre de piliers fantastiques, formés par la jonction des stalactites et des stalagmites, le résultat de l'incessant égouttement au cours des siècles. Au plafond, de véritables essaims de chauves-souris qui s'étaient rassemblés là par milliers. La lumière les affola et elles s'abattirent par centaines sur les chandelles en poussant des cris stridents. Tom, qui connaissait les habitudes de ces animaux, vit le danger. Il prit Becky par la main et l'entraîna dans le couloir le plus proche. Bien lui en prit, car une chauve-souris éteignit d'un coup d'aile la chandelle de Becky au moment où elle sortait de la salle. Les chauves-souris poursuivirent les enfants, mais ceux-ci changèrent de couloir au fur et à mesure qu'ils s'en présentaient et finirent par se débarrasser de ces dangereux animaux. Tom découvrit bientôt un autre lac souterrain, dont les bords se perdaient dans l'ombre. Son intention était d'en faire le tour. Il décida toutefois de prendre d'abord un peu de repos. Alors, et pour la première fois, le profond silence qui régnait en cet endroit, ainsi que la moiteur de l'atmosphère, firent aux enfants une impression saisissante. « Je n'y ai pas fait attention, » dit Becky, « mais il me semble qu'il y a une éternité que nous n'avons entendu les autres. »« Pense donc, Becky, nous sommes au-dessous d'eux et je ne sais à quelle distance ni dans quelle direction. » Il serait impossible ici de les entendre. Becky prit peur. Depuis combien de temps sommes-nous là? Ne ferions-nous pas mieux de revenir? Oui, Becky, peut-être. Peux-tu t'y retrouver, Tom? Moi, je m'y perds. Je pourrais, s'il n'y avait pas les chauves-souris. Si elles éteignent nos deux chandelles, nous serons dans de jolis draps. Essayons de nous en tirer sans passer par là. Oui, mais pour l'amour de Dieu, « ne te perds pas, ce serait affreux, » dit la petite, tremblant à cette idée. Ils s'engagèrent dans une sorte de couloir, regardant à droite et à gauche pour voir s'ils n'y reconnaîtraient pas un chemin déjà parcouru. Mais tout leur était inconnu. Chaque fois que Tom inspectait les alentours, Becky guettait sur son visage un signe d'encouragement. Il s'efforçait de paraître gai. « Ça va bien, ce n'est pas encore celui-là, mais nous finirons bien par y arriver. » Mais à chaque échec, il avait de moins en moins confiance. Et bientôt, il commença à changer de direction à chaque croisement dans le fol espoir de trouver le passage qu'il cherchait. Il continuait à dire « ça va bien », mais se sentait envahi par une telle angoisse que les mots ne correspondaient plus à ce qu'il devait exprimer et résonnaient exactement comme s'il avait dit « tout est perdu ». Becky, prise d'une terreur folle, se cramponnait à lui et faisait tout ce qu'elle pouvait pour ne pas pleurer. Mais les larmes finirent par couler malgré elle. Enfin, elle dit « Oh, Tom, tant pis pour les chauves-souris. Retournons par là. Par ici, tout me semble aller de mal en pis. » Tom s'arrêta. « Écoute, » dit-il. Un profond silence s'ensuivit, si profond que le bruit de la respiration des enfants prit dans ce calme une importance inaccoutumée. Tom appela. L'écho répercuta son appel le long des galeries désertes et s'affaiblit au fur et à mesure de la distance jusqu'à ne plus ressembler qu'à un rire macabre. « Oh, ne fais plus cela, Tom. C'est trop horrible, » dit Becky. « C'est horrible, mais il le faut, Becky. Quelqu'un pourrait nous entendre, tu sais. » De nouveau, il appela. Ce « pourrait » avait un sens tellement tragique qu'il donnait le frisson plus encore que le rire spectral qu'il venait d'entendre. C'était, pour Tom, l'aveu du déclin de son espoir. Immobile, les enfants écoutaient, mais sans résultat. Tom voulut revenir sur ses pas. Il se hâta. Au bout de quelques instants, les symptômes d'une certaine indécision de sa part révélèrent à Becky l'horrible réalité. Il ne retrouvait plus son chemin. « Oh, Tom, tu n'as pas fait de repère. Becky, c'est de la folie de ma part. Je n'ai pas pensé que nous en aurions besoin pour revenir. Je ne peux plus retrouver le chemin. Je m'embrouille. Tom, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Nous ne pourrons plus jamais sortir de cette horrible grotte. » Pourquoi diable avons-nous quitté les autres ? Elle se jeta à terre et eut une telle crise de larmes que Tom prit peur. Allait-elle mourir ou perdre la raison ? Il s'assit à côté d'elle et la prit dans ses bras. Elle appuya la tête sur l'épaule de Tom, se serra contre lui, donnant libre cours à son angoisse, exprimant d'inutiles regrets dont le lointain écho lui renvoyait une parodie lugubre. Tom la supplia de reprendre courage. Elle dit qu'elle ne s'en sentait pas la force. Il en vint à s'accuser d'être responsable de tout le mal. Cette confession provoqua une réaction salutaire. Becky déclara qu'elle essayerait de reprendre confiance, qu'elle se lèverait et le suivrait où il voudrait. À condition que tu ne parles plus comme cela. C'est autant ma faute que la tienne. Ils se remirent à marcher sans but, au hasard, puisqu'il ne leur restait rien d'autre à faire. Un moment, l'espérance parut renaître, sans raison, simplement parce que l'espoir est chose naturelle chez les êtres humains, tant qu'il n'a pas été émoussé par l'âge et l'expérience. Au bout d'un moment, Tom prit la chandelle de Becky et l'éteignit. Cette mesure d'économie s'expliquait d'elle-même. Becky comprit et son espoir défaillit à nouveau. Elle savait que Tom avait dans sa poche une chandelle entière et 3 ou 4 morceaux, mais se rendit néanmoins compte qu'une prudente économie s'imposait. Petit à petit, la fatigue se fit sentir. Les enfants essayèrent de ne pas y prendre garde, car il était terrible de penser à s'asseoir quand le temps devenait de plus en plus précieux. Marcher dans une direction, dans n'importe quelle direction, c'était au moins progresser. Et cela pouvait porter ses fruits. mais s'asseoir, c'était inviter la mort et lui faciliter la tâche. Bientôt, les frêles jambes de Becky refusèrent de la porter. Elle dut s'asseoir. Tom s'installa à côté d'elle. Il lui parla de ses amis, de sa maison, des lits confortables qui s'y trouvaient, et par-dessus tout, de la lumière. Becky pleurait, et Tom cherchait le moyen de la consoler. Mais les arguments qu'il trouvait pour l'encourager étaient usés jusqu'à la corde. Les circonstances leur conféraient une sorte d'ironie macabre. Becky était si lasse qu'elle finit par s'endormir. Tom en fut heureux. Il voyait son visage fatigué redevenir serein sous l'influence de songes agréables. Quelquefois, un sourire lui passait sur les lèvres. Tandis qu'il rêvassait, lui aussi, Becky se réveilla avec un rire léger qui s'arrêta brusquement. Ce qui suivit était plutôt une plainte. « Dire que j'ai pu dormir !» gémit-elle. « Oh, comme j'aurais voulu ne jamais me réveiller !»« Oh non, Tom, je n'ai rien dit. Je te fais de la peine. Je ne le dirai plus. » « Je suis bien content que tu aies dormi, Becky. Maintenant, tu dois te sentir reposée. Nous allons trouver le chemin de la sortie. Nous allons essayer, tu veux dire. J'ai vu dans mon rêve un si magnifique pays. Je crois plutôt que c'est là que nous irons. Peut-être pas, peut-être pas. Du courage, Becky, et en route. » Ils se levèrent et se remirent en marche en se tenant par la main, mais sans grand espoir. Ils cherchèrent à calculer depuis combien de temps ils étaient dans la grotte. Il leur semblait qu'il y avait des jours, peut-être des semaines. Cependant, il était évident qu'il ne pouvait en être ainsi, puisque leur provision de chandelles n'était pas épuisée. Un long moment s'écoula. Puis Tom observa qu'il fallait faire le moins de bruit possible, que si on passait près d'une source, il importait de ne pas la manquer. Ils finirent par en trouver une. Tom déclara qu'il fallait se reposer à cet endroit. Les deux enfants étaient terriblement fatigués. Becky certifia cependant qu'elle pouvait marcher encore un peu. Elle fut étonnée d'entendre Tom la contredire. Elle ne comprenait pas. Ils s'assirent. À l'aide d'un peu de terre glaise, Tom fixa sa chandelle sur une aspérité du mur en face d'eux. Ils réfléchirent pendant quelques instants en silence. « Tom, j'ai faim, » dit tout à coup Becky. Tom sortit quelque chose de sa poche. « Te souviens-tu de cela ? » demanda-t-il. En souriant tristement, Becky répondit. « C'est notre cadeau de noces, Tom. » « Oui, je souhaiterais seulement qu'il y en ait davantage parce que c'est tout ce qui nous reste. » « Je l'avais pris au pique-nique, Tom, pour qu'en rentrant, nous en mettions chacun un morceau sous notre oreiller et que nous fassions de beaux rêves. C'est comme cela que font les grandes personnes avec les gâteaux de noces. Mais nous, ce sera notre. » Elle n'acheva pas sa phrase. Tom partagea le gâteau en deux morceaux. Becky mangea sa moitié de bon appétit. Tom grignota à peine la sienne. Il y avait de l'eau fraîche en abondance pour compléter ce modeste repas. Bientôt, Becky proposa de repartir. Tom garda un instant le silence, puis il dit « Becky, serais-tu assez forte pour supporter une mauvaise nouvelle ?» Bien que l'appréhension la fît pâlir, Becky crut pouvoir dire que oui. « Eh bien voilà, Becky, il nous faut rester ici où nous avons de l'eau à boire, car ceci est notre dernier bout de chandelle. » Becky ne put retenir ses larmes. Tom fit de son mieux pour la consoler, mais sans grand succès. Enfin, Becky dit « Tom, quoi, Becky ? Ils finiront bien par s'apercevoir que nous ne sommes pas là. Ils nous chercheront. » « Oui, bien sûr, évidemment. Peut-être qu'ils nous cherchent déjà maintenant. Je pense, j'espère bien que oui. Quand crois-tu qu'ils se seront aperçus de notre absence ? Mais en reprenant le bateau, je suppose. » Il devait faire nuit à ce moment-là. Crois-tu qu'ils se seront aperçus que nous n'y étions pas ? Je ne sais pas. Mais de toute façon, ta mère se sera bien aperçue de ton absence quand les autres revenaient. L'expression d'effroi que Tom put voir sur le visage de Becky le fit tressaillir. Il se rendit compte de l'erreur qu'il venait de commettre. Cette nuit-là, Becky ne devait pas rentrer chez elle. Les deux enfants réfléchirent en silence. Une nouvelle manifestation du chagrin de Becky prouva à Tom que leurs pensées suivaient un même cours. Il se pourrait que la matinée du dimanche fût écoulée à moitié avant que Madame Thatcher découvre que Becky n'était pas chez Madame Harper. Les enfants, les yeux rivés sur leur dernier bout de chandelle, le regardaient fondre, lentement, mais inexorablement. Il n'y eut bientôt plus qu'un centimètre de mèche. La flamme eut un dernier sursaut. Une mince colonne de fumée monta, puis, dans toute son horreur, l'obscurité régna, totale, absolue. Combien de temps s'écoula avant que Becky eût conscience qu'elle pleurait dans les bras de Tom ? Ni l'un ni l'autre n'aurait pu le dire. Tout ce dont ils se rendirent compte, c'est qu'après un temps qui leur parut interminable, ils finirent par sortir de leur torpeur. Tom estimait qu'on devait en être à dimanche ou peut-être à lundi. Il s'efforçait de faire parler Becky, mais la pauvre petite avait trop de chagrin. Elle n'avait plus aucun espoir. Tom pensait qu'on avait depuis longtemps dû s'apercevoir de leur absence et que, sans aucun doute, les recherches étaient commencées. S'il criait, quelqu'un ne manquerait pas de venir. Il essaya, mais dans l'obscurité, les échos résonnèrent de façon si lugubre qu'il ne recommença pas. Les heures s'écoulèrent interminables. La faim se fit à nouveau sentir. Il restait un morceau de gâteau que Tom n'avait pas mangé. Ils se le partagèrent, mais il leur sembla ensuite qu'ils avaient encore plus faim qu'auparavant. Ce simulacre de repas ne fit qu'exciter leur appétit. De temps en temps, Tom lui disait « Chut, as-tu entendu ?» Tous deux retenaient leur respiration et écoutaient. C'était comme un appel très faible, très lointain. Aussitôt, Tom répondit. Il prit Becky par la main. Les deux enfants avancèrent à tâtons le long du couloir dans la direction supposée. Tom écouta. Un instant plus tard, le son se fit entendre de nouveau et apparemment d'un peu plus près. « Les voilà !» dit Tom. « Ils arrivent ! Viens, Becky, nous sommes sauvés !» La joie des prisonniers fut délirante. Ils n'avançaient toutefois que lentement, car les crevasses ne manquaient pas et il fallait faire très attention. Bientôt, en effet, ils se trouvèrent devant une crevasse et durent s'arrêter. Avait-elle un mètre de profondeur ? En avait-elle 30 ? En tout cas, il n'était pas question de la franchir. Tom se mit à plat ventre et étendit le bras tant qu'il put pour essayer d'en mesurer la profondeur. Il ne toucha pas le fond. Il n'avait plus qu'à rester où ils étaient et à attendre l'arrivée des chercheurs. Ils tendirent l'oreille. Il n'y avait pas à se dissimuler que les appels devenaient de plus en plus distants. Quelques secondes de plus, ils n'entendirent plus rien. Accablant coup du sort. Tom s'enroua à force d'appeler, mais cela ne servit à rien. Il parla à Becky pour lui redonner de l'espoir, mais, après un long moment d'anxieuse attente, aucun bruit ne se fit plus entendre. Les enfants revinrent à tâtons jusqu'à la source. Le temps leur paraissait de plus en plus long. Ils dormirent de nouveau et quand ils se réveillèrent, ils avaient faim et ils étaient démoralisés. Tom estima qu'on devait en être au mardi. Tout à coup, Tom eut une idée. Il y avait plusieurs galeries latérales à proximité. Mieux valait en explorer quelques-unes que de se morfondre à ne rien faire. Il tira de sa poche la ficelle de son cerf-volant et l'attacha à une saillie du mur. Becky et lui partirent, Tom en tête, déroulant sa ligne à mesure qu'ils avançaient. Au bout de quelques pas, le couloir finissait dans le vide. Tom s'agenouilla pour tâter le sol et le mur aussi loin qu'il le pouvait avec la main. En faisant un effort pour toucher le mur un peu plus loin vers la droite, il vit, à moins d'une vingtaine de mètres, une main d'homme tenant une chandelle émergée de derrière un rocher. Tom appela avec force. Et aussitôt cette main fut suivie par le corps auquel elle appartenait. C'était celui de Joe l'Indien. Tom en fut comme paralysé, incapable de faire un mouvement. L'instant d'après, il eut la satisfaction de voir le faux Espagnol tourner les talons en vue de se soustraire à toute poursuite éventuelle. Tom s'étonna que Joe n'ait pas reconnu sa voix et n'ait pas saisi la belle occasion qui se présentait à lui de le tuer pour se venger de sa déposition au tribunal. Mais peut-être l'écho avait-il modifié le timbre de sa voix. À la réflexion, il pensa que ce devait être le cas. La frayeur de Tom lui coupa bras et jambes. Il se dit que s'il avait la force de revenir à la source, il y resterait, et que, pour rien au monde, il ne courrait le risque de rencontrer à nouveau Joe l'Indien. Il eut soin de ne pas révéler à Becky ce qu'il avait vu, et lui dit qu'il n'avait crié qu'à tout hasard. À la longue, la faim et le désespoir l'emportèrent sur la peur. Une nouvelle attente fastidieuse devant la source et le besoin de dormir qui s'ensuivit leur changèrent les idées. Les enfants se réveillèrent en proie à une faim dévorante. Tom pensait en être au mercredi ou au jeudi, qui sait ? Peut-être même au vendredi ou au samedi. Les recherches avaient probablement été abandonnées. Il proposa d'explorer une autre galerie. Il était disposé à affronter la rencontre de Joe l'Indien et tous autres périls. Mais Becky était très faible. Elle était tombée dans une morne apathie dont Tom ne put la tirer. Elle attendrait maintenant où elle était et mourrait. Elle n'en avait plus pour longtemps. Que Tom, disait-elle, prenne avec lui sa ficelle et explore tout ce qu'il voulait. Elle l'implorait seulement de revenir souvent lui parler. Elle lui fit promettre que, quand l'affreux moment arriverait, il resterait près d'elle et lui tiendrait la main jusqu'à la fin. Tom l'embrassa, la gorge serrée par l'émotion. Il se fit un devoir vis-à-vis d'elle de paraître certain, soit de rencontrer les chercheurs, soit de trouver une issue pour sortir de la grotte. Puis il prit la ficelle en main et à quatre pattes s'en alla à tâtons dans l'une des galeries, à demi-mort d'inanition, et démoralisé par de sombres pressentiments.